Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Raconte ta parentalité. À chaque émission, je reçois un invité qui vient se confier sur son parcours, son enfance et comment il se projette dans sa parentalité. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Madame El Haïry, ancienne ministre et aujourd'hui haute commissaire à l'enfance. Comment vous allez, Madame El Haïry ?
Ça va très bien. Très bonne nuit, donc ça va.
Alors aujourd'hui, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Et pour commencer, j'aimerais vous poser une question simple. Qui était Sarah enfant ?
Ah, moi, j'étais une petite fille super bien entourée, avec une famille très présente, des grands-parents, des oncles, pour le coup une famille très heureuse, mais très très bonne élève. C'est-à-dire que j'adorais l'école, quand ma page était griffonnée, je la recommençais à la maison. J'avais ce syndrome du très très bon élève, et j'étais déléguée de classe, et j'ai adoré mes années d'école.
Vous avez adoré vos années d'école. À la maison, comment est constituée votre famille ? Est-ce que vous avez vécu avec papa, maman ? Vous avez des frères et sœurs ?
J'ai un petit frère qui fait deux têtes et demie de plus que moi, un petit frère assez génial. On a à peine un an d'écart, donc on était très très proches. Moi, j'ai des parents comme plein de parents qui ont divorcé, et donc j'ai plutôt été élevée d'abord par ma mère, avec mes grands-parents très présents, ma grand-mère maternelle qui a été très très présente dans notre éducation, et puis un beau-père qui est arrivé, et donc une famille recomposée dans un second temps, mais une famille qui a chacun trouvait pleinement sa place au fur et à mesure, je pense, des étapes, mais une famille très élargie.
Très élargie. Et du coup, dans vos souvenirs, qui est-ce qui posait le cadre ? Alors, du coup, j'allais dire dans un premier temps, maman. Non, c'était
ma grand-mère. Non. Moi, j'ai eu la chance, pour le coup, d'avoir une mamie aussi très jeune. Mmh. Et une maman qui nous a remplis d'amour. Mais une amie qui était quand même pleine d'amour et avec un cadre certain. Mais c'était un magnifique équilibre. C'était un amour très exigeant, mais un amour immense.
Immense. Alors du coup, là, on était sur l'enfance. Ensuite, forcément, arrive l'adolescence. Est-ce que du coup, vous restez une enfant pareille, très studieuse, très scolaire, ou est-ce que vous faites une petite crise de l'adolescence ?
Zéro crise d'adolescence.
Pas de crise d'adolescence.
Pas du tout. Je crois que ma seule crise, peut-être de pré-ado, c'est qu'une fois, j'ai dû cacher une note de dictée qui était mauvaise à mes parents en essayant de coller la feuille pour faire signer la page d'après. Je crois que ça doit être ma plus grande bêtise d'ado ou de pré-ado. Non, mon frère faisait suffisamment de bêtises pour nous deux. On s'est équilibré sur ça. J'ai une adolescence assez douce. Après, parfois, dans des familles monoparentales, enfin, on ne voulait pas non plus recharger plus la barque de maman. Et je pense que ça t'oblige aussi à être assez responsable de tes actions, de tes actes. Il y a cette expression qui dit maman et papa à la fois, ouais. Ce qui est vrai. C'est-à-dire qu'elle avait autant le rôle de faire tourner la maison, d'amour, de continuité, de sécurité affective, que la responsabilité du cadre, de l'autorité. Et mine de rien, dans ce moment-là, je pense qu'il y avait quand même beaucoup de responsabilités de chacun. En tout cas, entre nous, on était trois, donc moi, mon frère et ma mère. Mais non, pas eu de crise, pas du tout.
Pas de crise.
J'ai fait après.
À plus tard, oui. Mais souvent, quand on ne l'a fait pas enfant, on l'a fait plus tard. Je crois savoir que vous êtes d'origine marocaine. Du coup, vous faites des allers-retours entre la France et le Maroc.
Oui, mes parents sont marocains, tous les deux. Moi, j'ai été naturalisée française. Je suis née dans le Loir-et-Cher. Mais quand tu es née de parents non français, tu ne nais pas français. Tu nais d'abord avec NCT tes parents. Et ensuite, mes parents voulaient qu'on grandisse en tant que Français, donc ils ont fait le choix de faire une démarche avec un avocat pour qu'on soit français naturalisé dès qu'on était tout petit. Je pense que je vais avoir un an, donc sur mon acte de naissance c'est écrit sur le côté naturalisé par la décision du tribunal pour le coup. Mais j'ai grandi avec la chance aussi de grandir quelques années au Maroc, puisque on est parti au Maroc après le divorce de mes parents. maman se retrouvait seule et pour le coup la présence de ma famille pour le coup maternelle était importante. Elle était jeune, hein. Elle nous a eu quand elle avait 18-20 ans.
Oui, elle était
donc,
jeune.
Elle a divorcé, elle avait peut-être 23 ou 24 et elle avait deux enfants. Et donc j'ai fait mon école primaire et mon collège et une partie de mon lycée au Maroc. Donc j'ai connu ce pays que j'ai appris à aimer et pour qui j'ai énormément d'affection.
Donc du coup, on va dire que vous faites un peu des allers-retours entre la France et le Maroc. Quelles sont les valeurs éducatives, si vous arrivez à vous en souvenir, que vos parents vous ont transmises, alors que ça soit maman ou beau-papa?
Franchement, chez moi, c'était quand même beaucoup la place de l'école.
Enfin, la place de l'école.
L'importance d'étudier, l'importance de respecter ses enseignants, l'importance d'avoir des bonnes notes, de s'impliquer, d'être actif en étant très, très, très présent et volontaire dans les activités, dans les propositions, pour le coup, scolaires. Et puis beaucoup le travail. Moi, j'ai des parents qui étaient commerçants, donc... Il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de soir, dans la restauration.
C'est la valeur travail.
Ah, pour le coup, c'était très, très présent dans notre famille. J'ai eu la chance d'avoir, encore une fois, de manquer jamais de rien. Mais avec cette place de la responsabilité que chacun a à être hyper... alors déjà instruit, en lisant, en apprenant, en faisant... On avait le droit de faire plein d'erreurs, mais jamais ils nous refusaient des choses qui étaient liées à l'école.
D'accord.
Un livre, un séjour... pour le coup, c'était jamais un sujet, pour le coup, où il y avait un non. Mais il fallait être irréprochable. Il fallait être respectueux, il fallait être très respectueux des anciens et des adultes. Ça, c'est vraiment le cadre dans lequel on a grandi. Et du coup, la valeur de la famille était quand même très présente, mais au sens très élargi. C'est-à-dire, la famille, c'est la famille de cœur. C'était les grands-oncles, parfois les amis de mes parents ou les amis de mes grands-parents. Mais pour le coup, il y avait cette place des générations et la transmission et le fait de profiter un petit peu du savoir, des temps, pour le coup, des anciens, et de pas s'enfermer. Ça, c'est vraiment quelque chose qui était très précieux, et je sais que moi, en tout cas, ça m'a beaucoup marqué.
Et
qu'on avait chacun la responsabilité de participer à quelque chose de bien. Mes parents, ils m'embarquaient dans des actions, pour le coup, associatives. On n'était pas plus haut que trois pommes, quoi. On faisait des collectes de livres, où on rénovait des sanitaires d'école, on faisait des caravanes médicales. Parce que, quelle que soit ta situation à toi, tu peux toujours, quel que soit ton âge, tu peux toujours aider quelqu'un. Soit par ton action, soit par ta parole, soit par ta présence. Et donc, ça allait des concours de dessin à, parfois, des collectes alimentaires. Mais il y avait cette place de ton action, quel que soit ton âge, elle est importante. Tout le monde doit être dans un peu connecté dans l'entraide. Et puis, il ne regarde pas juste son nombril. C'est ce qui t'entoure. Et ce qui t'entoure, bah, parfois, c'est des cousins, parfois, c'est la famille, parfois, c'est d'autres personnes qu'on a la chance de croiser. Et si on s'arrête un peu et qu'on discute et qu'on prend le temps d'échanger, le monde, il est riche de ces rencontres-là. Et que ce soit les clients de mes parents au restaurant ou que ce soit, pour le coup, dans le cadre d'un engagement associatif, c'était quand même quelque chose de très structuré. Enfin, c'était très important dans notre famille, ça.
Et du coup, c'est quelque chose que vous gardez jusqu'à aujourd'hui, puisque vous faites aussi le choix d'une carrière politique, mais pas que, un engagement réel. Moi, je sais que la première fois que je vous croise en vrai, au-delà des écrans, c'était au collectif des directeurs jeunesse, un des premiers qui avait eu lieu, et vous étiez déplacé pour donner justement de la force à ces personnes qui travaillent au quotidien avec les jeunes. Et puis encore, ici même, d'une projection vidéo avec les parents de Grigny. Donc, on sent cet engagement qui vous poursuit. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de transmettre à votre enfant?
Oui, absolument. Parce que moi, je pense que l'habit, la fonction, le titre ne fait pas la personne. En fait. Et pas du tout. Moi, j'ai vu des gens qui sont arrivés, pour le coup, dans l'entreprise familiale. Un restaurant, c'est assez simple, en vrai. Mais tout le monde est essentiel. En fait, il n'y a pas... Un restaurant, ça ne tourne pas si tout le monde n'est pas pleinement dans sa mission et si chacun n'est pas respecté pour sa mission et ce qu'il apporte. Et puis, j'ai grandi avec ça. Et petit à petit, dans mes engagements politiques, mais aussi mes engagements associatifs, parfois, quand il y a trop de protocoles, tu parles que aux gens qui ont un rang de protocole. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. La réalité, c'est que chaque personne, si tu prends le temps de croiser son regard, si tu prends le temps de discuter, d'échanger, t'en sors grandi. Mmh. Et donc, moi, j'ai grandi comme ça. Et moi, c'est ce que j'aimerais que demain, Jeanne, elle puisse avoir. Moi, mes parents, ils nous ont appris, c'est vrai, les codes pour bien se tenir dans un restaurant. Qu'il soit très grand restaurant avec des codes sociaux importants ou de prendre le plaisir de partager un plat tranquille dans un lieu, dans un snack ou peu importe, ou même un lieu au Maroc, il y a des lieux populaires où c'est très bon, où c'est très particulier. Mais finalement, ce partage est essentiel. Et donc, on a appris à vivre dans plusieurs environnements en se disant, en fait, il faut tirer le meilleur de chacun. Mmh. Mais pour tirer le meilleur de chacun, il faut être...
proche des gens.
Ouais, simplement, en fait. Mmh. Et donc, il ne faut pas s'enfermer. Et moi, j'adorerais, et j'espère que ma fille, elle sera comme ça. En tout cas, j'essaierai de lui montrer que les richesses, elles sont pas dans le cadre qu'on voit. C'est pas l'esthétique, c'est pas la cosmétique, c'est plus profond. Donc tu peux passer une magnifique soirée dans un snack ou dans un bar ou en fait la soirée elle va dépendre des gens qui sont autour de toi, des gens avec qui tu vas partager le moment. Et tu peux aussi et tu dois aussi avoir les codes pour pouvoir être en société parce que certains lieux nécessitent d'avoir des codes. Et donc si tu as ces clés, eh ben à toi d'être intelligent, à toi d'être heureux. Et c'est, finalement, c'est ça que j'essaye de lui transmettre. Enfin, là, elle est toute petite. Mais j'aimerais qu'elle grandisse avec la conscience qu'elle peut apporter du bien autour d'elle au quotidien. Et je pense que c'est ce qui rend heureux. Parce que du coup, on est moins passif dans sa propre vie. Mmh.
Merci. On va revenir légèrement en arrière. Du coup, on a passé l'adolescence. Est-ce que, jeune adulte, on se projette déjà en se disant, moi, plus tard, j'aimerais avoir des enfants, j'aimerais avoir une famille, quel type de famille? Comment ça se passe d'abord dans l'imaginaire et après, on rentre un peu dans les faits?
Moi, j'aurais adoré dire oui, je me voyais, maman, mariée et tout. La vérité, c'est que moi, j'ai posé un peu mon homosexualité un peu tard.
Vers quel âge à peu près?
18-20 ans.
Et est-ce qu'on le sent un petit peu avant ou est-ce qu'on on le découvre sur le tard ou est-ce qu'on commence à se poser des questions en se disant il y a quelque chose qui m'attire mais chez le sexe qui n'est pas forcément masculin ou est-ce qu'on n'ose pas?
Non, c'est que tu grandis avec une tradition, tu grandis dans un environnement. Moi, il n'y avait pas de modèle, c'était pas une sorte de modèle. Je suis tombée amoureuse d'abord d'une fille et puis je pensais que ça, c'était une passade. Et finalement, non, c'était pas ça. C'était pas ça. Et donc, j'avais aussi un engagement politique, professionnel, qui faisait que j'avais envie de réussir, vraiment, pour rendre fière aussi ma grand-mère. Parce que le nombre de fois où des gens ont pu dire à l'époque, parce que c'était plus ou moins le cas peut-être aujourd'hui, certainement, mais les enfants vont mal tourner parce qu'ils sont élevés par une femme seule. Tous ces trucs qu'on entend qui sont blessants, bah oui, ça te donne une rage, ça te donne une énergie, parfois même une colère intérieure qui est pour le coup positive. Mais j'avais pas envie de faire honte. J'avais pas envie de faire honte au sacrifice d'abord de ma mère. J'avais pas envie de faire honte à l'engagement et l'investissement de ma grand-mère. C'est vrai, moi j'ai été élevée par deux femmes, deux femmes fortes. Et du coup, l'importance des études, l'importance du travail faisait que c'était un peu mon cap. Et puis, je voyais bien que dans ma vie perso, ça avait pas l'air d'être si simple que ça. Donc, c'est vrai que je m'étais moins projetée. C'était moins une évidence. Et puis, il y a eu un déclic quand j'ai rencontré la femme, celle qui était pour le coup, pour moi, une évidence. Et Jeanne est née, parce que la loi a aussi changé dans notre pays.
Et c'est... À peu près quel âge au moment où cette femme...
Notre rencontre dans... Ah, notre rencontre, elle est... je devais avoir, 29-30 ans, quoi.
29-30 ans. Donc là, vous êtes déjà engagée politiquement,
Je suis déjà ministre, j'ai été élue députée deux fois, j'avais déjà été déléguée d'une fondation.
Donc on commence quand même à avoir des responsabilités lourdes.
Ah oui, j'étais ministre de la jeunesse et de la vie associative. Mais pour le coup, j'ai... elle est rentrée dans ma vie avec ses enfants, et c'était une évidence. Et en même temps, il y avait quelque chose en moi qui était de... On s'est battu dans un combat pour l'égalité, on a réussi à faire voter la PMA pour toutes. Et donc aujourd'hui, on pouvait s'autoriser à... Et d'un coup, oui, c'était possible. Oui, c'était possible. Et du coup, c'était une évidence.
Ça
devient
et
une c'est
évidence.
Devenu un parcours, parce que la PMA, c'est pas un claquement de doigts. C'est des traitements, c'est assez long, c'est assez lourd. Mais c'était devenu une évidence parce que c'était elle. Et du coup, notre fille est née.
Mais au moment, du coup, où on prend cette décision de se dire, bon, allez, c'est bon, je rencontre la femme qui me plaît, celle avec qui ça devient une évidence. Comment ça se passe, le moment de l'annoncer ? L'annonce est bon déjà à la famille, mais aussi parce qu'avec cette place de ministre, il faut aussi, à un moment donné, quand la grossesse arrive, ou peut-être même un petit peu avant, il faut l'annoncer. Comment ça se passe ? Est-ce que c'est difficile ? Parce qu'on parlait aussi du poids de nos histoires, de nos traditions, de nos cultures. Et du coup, bah, y a un petit peu cette gêne, cette honte, ou peut-être même des fois de la pudeur. Et quand il faut le mettre sur la table, comment ça se passe ? Est-ce que c'est bien accueilli ? Est-ce que c'est difficile ?
Je vais être très honnête avec vous. J'ai toujours considéré que ma vie personnelle était privée et que mon engagement politique, il était du coup public, mais le reste, ça m'appartenait. C'était aussi une manière de me protéger, je pense, et de protéger les gens que j'aime, ma famille. C'était ma manière à moi, finalement, de les protéger d'une violence politique de plus en plus forte. Et je n'oublierai jamais la phrase, pour le coup, quand je dis à ma mère que je préfère les filles, il y a quand même maintenant très longtemps, parce que j'avais 18 ans à peu près, la première chose qu'elle a dite, c'est qu'elle avait peur. Elle n'était pas, en colère, alors que je savais pas ce qu'elle allait dire en vrai. Et elle a eu peur. Elle m'a dit, elle avait peur de que ma vie soit plus dure. Et finalement, elle m'a quand même remplie d'amour. Mais je sentais cette peur. Et donc, le fait d'exposer ou de les exposer, c'était un risque.
Ouais, c'était un risque.
Et sauf que quand tu décides de mettre au monde une vie, du coup, notre fille, moi, j'ai pas envie que notre monde y reste comme ça. Et donc, simplement de dire, en fait, il y a plein de modèles. Il y a plein de familles. On a les mêmes galères. On a les mêmes galères de garde, de nuit, de doute. Et finalement... Et j'espère juste que dans des années, quand elle saura lire et qu'elle lira peut-être cette interview, elle se dit c'était has-been de devoir faire ça, puisque c'est ridicule de raconter. On aura gagné quelque chose. Non pas pour imposer quoi que ce soit dans nos modes de vie, mais simplement pour considérer que ce sont juste des familles parmi d'autres, aussi simplement que ça, et que demain, dans une cour d'école, ce ne soit pas un sujet.
Ça sera pas
un sujet. Qu'il ne soit pas ciblé. Et que dans notre société, les lois ont évolué. Les actes homophobes, racistes, il y en a. Il y en a qui sont plus insidieux que d'autres. Il y a ceux qui, évidemment, tombent sous le coup de la loi. Et ceux-là, moi, pour le coup, je les dénonce, je les condamne. Et évidemment, je porte plainte quand c'est nécessaire.
Mais des fois, c'est beaucoup plus insidieux.
C'est plus insidieux. Et là, tu le sens parce que ça va te chercher aux tripes. Et tu sais bien, et tu vois bien... mais tu peux pas mettre le doigt dessus. Et quand je décide vraiment de le dire, je pensais pas que ça allait faire le tour du monde de la presse. Parce que j'étais la première femme à avoir dit que je vivais avec une femme au gouvernement. Et je pensais pas que ça allait faire autant de tour du monde. Mais dans le fond, c'est que si ça a fait autant de presse, c'est que c'était un sujet, alors même que ça ne devrait pas l'être. Et que la manière dont c'est sorti, c'était... pas tellement un coming out au sens coming out, parce que je considère que c'est ma vie. Je dis juste dans une interview, à la fin, on parlait de l'intelligence artificielle et du risque du numérique, que le moment où j'étais le plus peinée, la plus triste, c'est quand je rentrais et que je voyais que ma famille, elle était touchée par la violence des mots ou des insultes qu'elle voyait sur les commentaires. Et que moi, parfois, j'arrête de lire les commentaires, parce que c'est violent.
C'est violent.
Et que je sais que tout n'est pas vrai et que parfois, ça te mine tellement qu'il ne faut pas les lire. Mais qu'eux, ils les lisent, ces commentaires. Et parfois, ils sont inquiets quand il y a des menaces. Et t'as beau leur dire, mais non, c'est des haters. Ils sont inquiets. Je vois ça, ça me touche. Ça me fait mal. Et je dis ça en disant, et ça me fait mal quand c'est ma compagne. Et c'est ça qui fait le titre.
Qui fait le titre.
Et c'est simplement ça. Et ensuite, du coup, l'arrivée de Jeanne. Et l'arrivée de Jeanne, là, pour le coup, je me suis dit que si ça permettait juste à quelques filles, quelles que soient leurs origines,
ouais, c'est ça.
Quelle que soit leur religion, quelle que soit leur réalité de vie, leur territoire, si elles peuvent ouvrir cette discussion avec leur mère et avec leur père, parfois avec leurs frères et sœurs, ce sera déjà ça. Ouais, ce sera déjà ça.
C'est marrant, ça me touche beaucoup parce que, Soul Parks, en tout cas, la femme qui m'inspire, c'est Rosa Parks parce qu'au moment où elle décide de ne pas aller s'asseoir à l'arrière du bus, elle n'a pas cette intention de changer le monde. Elle a juste dit, moi, Rosa, je n'irai pas m'asseoir derrière. Et finalement, ça fait le tour du monde, ça change l'histoire du monde même. Et du coup, Social Park, on va se parquer partout où il y a. Et quand j'entends cette histoire, je me dis, c'est pareil, c'est pas cette volonté de changer le monde ou d'imposer quoi que ce soit, c'est juste une phrase comme ça que vous avez envie de dire là, à cet instant précis, qui va faire le tour du monde et qui, oui, effectivement, a dû et va encore changer beaucoup de choses pour les autres femmes qui arriveront au ministère, qui peut-être oseront là où avant on n'osait pas, pour les enfants aussi, et puis dans les familles.
Mais sincèrement, dans les familles, au début, on a eu des tombeaux de propos homophobes, c'est vrai. Et puis, quelques jours après, les premiers messages de jeunes filles. Et c'est vrai, d'origine maghrébine pour certaines.
Mais oui, merci.
Il disait, en fait, merci. Et des messages qui m'ont, moi, transpercé. J'avoue, je lis peu ces messages parce que ça me fait. Parfois, tu tombes plus sur des horreurs que des messages. Et là, j'ai beaucoup lu. Et ça m'a touchée parce que je pensais pas que ça pouvait autant compter. Et en fait, si, puisque, avec du recul, et peut-être que j'avais un peu oublié, mais moi, à l'époque, je savais pas qui. Ou quoi, ou à qui... Enfin, si, il y avait des films, c'était loin
c'est
de...
C'est assez lointain.
Oui, et puis c'était très loin, et puis ça ressemblait pas à mon histoire familiale, ni ma culture, ni à mes origines. Et donc, le fait de lire ces messages, et je me suis... Et il y avait quelque chose, moi, qui était resté un peu dans ma tête, mais qui m'avait beaucoup marqué. Il y avait eu un moment assez horrible, il y avait eu des articles en Ile-de-France, une jeune fille... Elle avait dit à ses parents qu'elle était, lesbienne et il avait, je crois que c'était son papa, il l'avait battu, tapé, il l'avait mis dans une cave. Et c'était sorti dans la presse. Et ça faisait peut-être 6 mois, 7 mois. Et je me disais, on est en France, quoi.
Et on en est encore là.
En France, et elle s'est pris des coups, il l'a cogné. Et je me disais, j'ai eu de la chance. Je doute pas de mes parents, pas du tout. Mais j'ai eu de la chance d'avoir une famille qui m'a pas mis dehors. Et puis je connaissais, moi je suis engagée dans une asso, c'est une asso qui me tient très à cœur, qui s'appelle Le Refuge, qui accueille des enfants qui sont mis à la porte, de leur propre famille, de leur propre maison, quand ils disent « je crois que j'aime tel ou tel ». Enfin, quand c'est ta propre maison qui te ferme ta porte, oui, tu te tais. Oui, c'est dur. Et le fait de dire qu'il y a... on est tous très différents, mais en fait, le fait d'avoir peut-être juste des gens parfois qui disent simplement ce qu'ils font, leur vie, leur petit bout de vie à eux, peut-être ça permettra de changer aussi dans notre société, un peu aussi dans les mentalités, et que demain, du coup, nos enfants, ça leur fera pas... ils seront pas ciblés parce qu'ils ont, ils ont eu un choix, deux mamans, ou un papa, une maman, ou deux papas, ou peut-être des grands-parents qui les élèvent. Et dans le fond, on aura avancé dans quelque chose.
Merci pour ça. J'ai envie de prendre deux petites minutes rapidement, parce que vous êtes quand même haute commissaire à l'enfance, donc toutes les questions sur le droit des enfants, la protection des enfants. On parle beaucoup en ce moment du harcèlement scolaire. Et du coup, c'est important aussi d'entendre votre témoignage qui ouvre aussi le débat et qui, on l'espère, continuera à ouvrir le débat dans les maisons, puisqu'il y a aussi les enfants qui sont victimes de harcèlement dès lors qu'il y a un penchant, en tout cas une attirance affective qui pas sort de la norme finalement, mais qui sort des représentations et des modèles que la plupart des enfants peuvent avoir, ou en tout cas celle qui prend encore trop de place et qui invisibilise les autres formes de modèles familiaux. Donc merci pour ça, et on espère vraiment que chez vous, les auditeurs, si vous êtes concernés par cette thématique, si vous avez envie d'ouvrir le débat avec les enfants, c'est peut-être un outil qui va permettre à des parents de déposer et à des enfants peut-être de se confier.
De
et des fois, on pense que nos parents vont avoir une réaction et finalement...
Mais ils en ont une autre. On se fait des montagnes. Mais moi, j'avais peur. J'avais peur qu'elle soit triste, j'avais peur qu'elle soit déçue. Et en fait, pas du tout. Elle avait juste peur. Et en fait, ça, c'est pas normal. Que dans notre société, que nos parents aient peur. Ça, c'est pas normal. C'est bien que les évolutions de notre société, ils ont encore à bouger. Peur de qu'en dira-t-on, peur de la violence, peur du regard de l'autre, peur que la vie elle soit plus dure. Et ça, c'est là. Et pour le coup, je sais que c'est étonnant de le dire comme ça, mais c'est dans tous les milieux sociaux. Ouais, parce que parfois, on se dit, oui, mais toi, tu sais, ta situation sociale ou ton histoire ou tes origines, pas du tout. C'est dans des milieux très aisés, dans des milieux moins aisés, plus ruraux, c'est partout. C'est pas mieux dans le 7e arrondissement que dans la Drôme ou en Loire-Atlantique à Nantes chez moi. C'est partout. Quand la porte de la maison est fermée.
Dans toutes les maisons, c'est la même histoire.
Dans toutes les maisons, exactement.
Et c'est important de dire ça parce que c'est pas une question de classe, d'origine, de culture, de religion. C'est juste une question d'être humain, finalement, de sentiments. C'est depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, donc avec votre compagne, vous décidez d'avoir Jeanne. Comment se passe la décision ? Est-ce qu'on décide ou est-ce que... Est-ce qu'on décide qui va porter l'enfant ? Est-ce qu'il y en a une des deux qui a plus envie que l'autre ? Comment on décide ? Parce que du coup, vous êtes quand même très active, vous êtes une personnelle publique, elle aussi. Et du coup, comment on prend la décision ? On se dit, on veut un enfant, mais alors du coup, comment on procède ? Comment ça se passe les recherches ?
En fait, c'était un peu en vrai une... Moi, j'avais très peur des vergetures.
Comme beaucoup d'entre nous. Voilà,
Donc, ma mère a passé son temps à m'expliquer que l'huile d'argan allait faire que n'ait pas de vergetures. Enfin, et je sais pas si c'est ça ou si c'est ma peau ou l'élasticité de ma peau. J'en sais rien, mais enfin, ça a marché. Hein.
Bon, déjà, tant mieux, c'est ça de prix.
Mais sincèrement, c'est passé tout seul. On en a un peu parlé. Et puis, c'était un peu une évidence, mais on s'est toujours dit que ce soit l'une ou l'autre. Et ça a été moi. Et puis j'avais envie. J'avais envie. Et ça s'est fait assez tout seul. C'est rigolo quand t'as le choix.
Ouais, c'est marrant d'avoir le choix parce que chez nous, on n'a pas trop le choix. Mais moi, j'aurais préféré que ça soit à lui.
Loupé.
Mais
c'était assez simple, ouais.
C'était assez simple. Et du coup, alors, quand ça y est, on y est, le fœtus. Est viable, ça y est, on sait que on va devenir maman. Comment se passe la grossesse ? Comment on fait vivre à l'autre aussi ce qu'on ressent, la transformation du corps ? Comment se passe la grossesse jusqu'à l'arrivée de Jeanne ?
Franchement, moi, j'ai adoré. Presque ça me manque parfois.
Pour mettre ça ?
Non. Ma fille a 2 ans, je vous rappelle, je suis dans le terrible 2, c'est pas le moment. En général, le terrible 3 fait qu'on peut recommencer, mais enfin là, plus sérieusement, moi j'ai adoré parce que on en avait très envie, parce qu'on l'a vécu à 2, parce que j'avais autant été gâtée. J'adore.
Oui.
Ah ouais, c'est franchement.
Tous les caprices sont
trop bien. En même temps, j'étais ministre, donc c'était très dur en termes de travail. Et notre vie politique, elle n'est pas pensée. Elle n'est pas pensée pour les jeunes parents. Elle n'est pas pensée pour les femmes de base. Très peu. Elle est encore moins pensée pour les jeunes parents. Les réunions qui arrivent avant le début des crèches, les déplacements qui sont, c'est vrai, très loin ou interminables. Mais j'ai eu la chance. À ce moment-là, mine de rien, d'abord d'avoir à la tête du gouvernement qui était le mien une femme. C'était Elisabeth Borne.
Oui, exact. Très engagée sur la question des femmes, de l'égalité, des violences, tout.
Et j'avais un ministre de tutelle, donc celui qui était avec qui je travaillais au quotidien, qui était un vrai féministe. Il s'appelait Christophe Béchu. Et qui a rendu ma grossesse absolument compatible, et donc mon temps, mon exercice politique compatible réellement avec les besoins et l'arrivée d'un bébé. Et puis pour le coup, c'est là où tout se goupille plutôt bien, parce que on avait des déplacements internationaux. J'étais ministre de la biodiversité, donc j'étais en charge des grandes négociations internationales sur la nature.
Donc là, c'était votre deuxième ministère ?
Mon troisième. Ouais, mon troisième. J'avais une équipe géniale. Une équipe, et franchement, c'est la force d'un collectif. C'est vrai qu'on parle beaucoup parfois des ministres, mais les ministres sont aussi finalement portés et ils sont à l'image de leurs équipes. Et là, pour le coup, mon équipe était superbe, très engagée, très mobilisée, très protectrice aussi. J'ai eu, pour le coup, je pense à eux en ce moment, une DIRCA. J'avais quand même une bande de féministes. Hein. Même les garçons chez moi étaient féministes. Mais ils étaient vigilants et du coup, c'était précieux. Après, je ne vais pas vous mentir, j'ai eu la trouille, comme plein de femmes, je pense, parce que Noujane, elle s'est pas très bien accrochée au début. Et sauf que t'avais des arbitrages à faire entre prendre la voiture et faire des déplacements ou ne pas le faire, au risque du coup de,
mettre
à mal la grossesse. Moi, c'était une PMA, donc il fallait s'arrêter, faire des piqûres. Enfin, c'était pas anodin, à des heures fixes. Ça joue sur le moral, ça joue sur les hormones. Il y avait aussi beaucoup de... Il y avait un moment où, quand vraiment on est aux 3 mois, et c'est le moment où tu le dis, enfin, en tout cas, on m'a toujours dit qu'il faut attendre les 3 mois pour le dire, on était en plein remaniement. Et je pense que, comme plein de femmes qui doivent annoncer leur grossesse, c'est pas normal, mais enfin, même moi, j'ai douté.
Mais on a peur, parce qu'on se dit, quand je vais l'annoncer, c'est le moment où je saute.
Alors que j'avais, pour le coup, confiance dans mon président, parce que c'est le président de la République qui m'a nommée, confiance dans mon ministre, malgré ça, au moment où tu poses la question, tu dis, c'est le moment d'un remaniement. Donc, je veux pas rester parce que je suis enceinte et je veux pas qu'on me fasse partir parce que je suis enceinte.
En fait, pour les compétences, mais pas pour l'état de femme, en fait.
Oui, et sauf que même moi, ça m'a traversée. Et donc, j'ai douté. Je me suis questionnée sur à qui j'allais le dire. Et j'ai choisi une femme. J'ai d'abord dit à la première dame, que je connais bien, Madame Macron, parce que je crois que parce que c'était une femme aussi.
Puis elle est très engagée
aussi. Elle est géniale. Et puis en plus, puis je lui dis, dites-le au président de la République. Et elle me dit, dites-le vous-même quand même. Donc je lui ai dit, bien sûr, mais comme quoi,
oui,
ça aussi.
Pas trop.
Et comment tu le fais? Et comment tu le fais? Comment tu le dis? À quel moment tu le dis? Est-ce que ça impacte ou pas après? Tu prends ton courage à deux mains, et je me souviens très bien, et je le dis de vive voix, le 13 juillet, la veille du 14 juillet, parce qu'il fallait que je défile, et que franchement, ça allait se voir. À ce moment-là, j'avais la chance d'être attachée au ministre de l'Éducation nationale et au ministre des Armées, et à la veille de notre fête nationale, j'avais le grand honneur d'accueillir évidemment nos troupes et les hommes et les femmes qui servent notre pays au quotidien.
Mais là, ça allait se voir.
Ça se voyait. Franchement, j'avais beau mettre des robes.
En plus, 13 juillet, c'est pas trop vers le réveillon.
Non. Et j'oublierai jamais ce joli moment.
Et du coup, merci pour ça aussi, parce que c'est vrai que dans la vie de toutes les femmes, cette question se pose, alors que j'ai envie de demander si ça avait été un homme
mais il aurait été heureux, il aurait été félicité. Et alors, j'ai eu la chance d'avoir été félicité et tout le monde était heureux, mais je pense qu'il se serait 10 000 fois moins posé la question.
Mais oui.
Il aurait dit, je suis heureux de vous annoncer, je vais devenir papa. Mais moi, je suis heureux de vous annoncer, je suis enceinte. Et là, t'attends, tu regardes 2 secondes, ça réagit bien. et encore, je suis une militante. Je sais que c'est dur. Et des coups, on en prend et tu tannes ton cuir. Mais là, à ce moment-là...
Puis ça touche autre chose, puisque il y a quand même la naissance d'un petit être tout attendu, mais à côté, en parallèle, il y a le travail de toute une vie, on peut dire aussi,
Et ça arrive à ce moment-là.
Et ça arrive à ce moment-là. Donc.
Et c'était pas la première tentative, donc c'est là où on voulait vraiment que ça marche.
Que ça marche. Vous auriez fait le choix vous-même de vous retirer si les conditions n'avaient pas été propices à la grossesse? Parce que c'est une question très dure que beaucoup de femmes se posent aussi, souvent. C'est au moment où on va grimper une marche qu'on attend, pour laquelle on s'est battu, qu'arrivent des situations de vie où... Et si on me demandait de choisir?
Nous, on a connu, pour le coup, dans ma famille, on a connu la maladie, comme beaucoup de familles. Et on a connu des moments plus durs que d'autres. Là, c'est un moment de joie.
Ouais, c'est ça.
En même temps, pour le coup, moi et ma compagne, on a fait le choix du « et ». C'est-à-dire d'essayer de réussir et de bâtir une famille... et de la vivre pleinement, mais aussi de réussir professionnellement dans nos engagements. Et moi, j'aimerais vous dire facilement, comme ça, au tac au tac, non, parce que c'est un combat, alors j'aurais mené le combat. Je sais pas vous dire.
C'est difficile. Hein.
Et puis, j'aurais adoré vous dire ça en tant que politique.
Mais de toute façon,
mais en vrai, je sais pas vous dire.
Mais non, parce qu'en fait, c'est faussé.
Exactement.
Parce que, donc, comme ça, c'est pas produit.
Exactement. Donc, ça serait malhonnête de dire, non, puisque j'ai envie de participer à ce... de faire partie de ceux qui changent les choses. Mais si ça avait été le cas,
je ne sais pas trop. Et en même temps...
Il n'y a pas de congé maternité, il n'y a pas d'arrêt maladie quand tu es ministre, ça n'existe pas.
Mais c'est vrai que c'est la question que je me posais, parce que à la naissance de Jeanne, vous revenez très vite en fonction.
Un mois après.
Ouais. Comment se passe justement... je vais un peu vite. On a parlé de la grossesse. le jour où toc toc toc, ça y est, on sait qu'elle est là. C'est une grosse.
Ah non, mais elle est arrivée programmée. En plein milieu de Noël. Moi, elle est arrivée le 28 décembre. J'y suis
c'était programmé
fois.
Ou c'était par voix basse? C'était.
Non, franchement, c'était. Ça a été une césarienne parce qu'elle avait le cordon qui était autour, pour le coup, des épaules. Donc, elle nous a fait quelques frayeurs. Elle nous a fait quelques frayeurs, mais elle est arrivée en pleine santé. C'était bien l'essentiel à la fin.
Dieu merci.
Ouais. Mais, elle nous a fait quelques frayeurs.
Et du coup, donc, le 28. Toc, 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 j'arrive. Comment se passe la première rencontre, du coup? Parce que la césarienne, alors, il y a certaines femmes qui arrivent, qui vont en césarienne, elles peuvent être assistées, mais là, du coup, quand, normalement, quand il y a des complications, vous êtes seule? Elle vous rejoint après, votre mémoire, campagne?
Non, je pense qu'elle est là.
Au début.
Elle est là, après c'est une césarienne en urgence, donc après tout s'est très bien passé, le service a été génial, les équipes magnifiques, donc je l'ai eu très vite contre moi. On était rassurés qu'elle aille bien parce ouais. que pour le coup c'était parce que son cœur ralentissait et c'est là où tu te rends compte que la vie elle est très fragile
yeah.
elle est très fragile et j'avais malheureusement en mémoire un drame hein, qui a touché un couple d'amis très proches qui ont perdu leur bébé à la naissance
ouais.
et ça faisait pas très longtemps donc
ça fait un peu peur
oui bien sûr parce mmh. que quand en général on arrive à la maternité c'est pour repartir
accueillir.
Avec son bébé mmh. Et du coup, oui, c'était entre l'inquiétude et son arrivée. Maintenant, ce qui a été le plus douloureux, c'était peut-être, je pense, le fait de ne pas pouvoir la porter les premiers
tout de suite,
jours
ça fait
et
mal.
Tout. Ouais, ça fait super mal, en fait ça fait
ma première fille est née par ses yeux. Ça fait mal.
C'est super mal.
En culpabilité presse de dire, regardez-la, la nurserie.
Ouais. Non, mais j'avoue, j'ai demandé. Et puis, j'ai eu la chance d'avoir, pour le coup, Pauline qui était très présente. Mes parents, ma mère était là aussi. Donc, j'ai une famille qui est très cocon. Mais... ça fait mal, quoi.
Mais oui.
Et ça dure, en fait.
Et ça dure, ça dure assez peu, longtemps. Ouais.
Et du coup, j'essaye d'avoir le max de temps et de liens. Mais elle était trop belle, puis c'était la mienne. Donc,
et puis, quelque part, mine de rien, ça permet à Pauline, si c'est Pauline, votre compagne, de vivre, elle aussi, ses premiers instants avec bébé. Parce que du coup, quand on a la césarienne, souvent...
Elle a eu le pot à pot avant moi.
Elle a le pot à pot en
avant. Avant moi, ouais.
Donc, c'est pas volé.
Non, elle a eu le pot à pot avant moi. Elle a fait les nuits avant moi. Mais ça a été... Mais pour le coup, on a vécu ensemble vraiment toute la grossesse. C'est-à-dire... on a fait tous les examens ensemble, tous, sans exception. Et pour le coup, franchement, en parcours de PMA, c'est pas que les contrôles. C'est vraiment tout le process. Non, ça a été à deux, mais vraiment à deux.
Qu'est-ce qui est le plus dur dans le parcours de PMA, finalement?
Le doute.
Le doute, hein?
Ouais, le doute, quand tu fais l'insémination, t'attends de savoir, ça a marché, ça a pas marché, tu dois attendre
un nouveau cycle. Et les piqûres aussi?
Les piqûres, bien sûr, l'estime... non, c'est pour le coup tu prends du poids, enfin c'est
pas anodin.
C'est pas anodin. Hein, on mesure la taille de tes follicules hein, pour savoir si comment ça va. Non, c'est un parcours. Après, il est très 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 intime et nous on a eu la chance d'être très bien accompagnés. Mais ça reste une part d'intime qui n'est pas anodin. Hein.
Qui n'est pas anodine. On avait reçu dans Raconte ta parentalité Emmanuel et son conjoint. Et justement, il disait qu'après plusieurs parcours d'essais, c'est son conjoint qui lui dit « Bon, écoute, stop. » Parce que justement, ce n'est pas anodin. Parce qu'à un moment donné, on voit aussi un produit. et par moment, quand on n'a pas la chance d'avoir une équipe aussi bienveillante, on vous reçoit comme si vous étiez un numéro. Alors que c'est lourd de sens. Merci pour ce partage et cette sincérité. Donc, ça y est, Jeanne est là. Comment ça se passe? Est-ce qu'on y va au feeling avec Pauline ou est-ce qu'en amont, on s'est dit... Voilà comment on va procéder, comment on va poser le cadre. Est-ce que tout est orchestré, organisé, ou est-ce que on se dit on y va au jour le jour?
Ah non, nous on est un mix des deux. J'ai plutôt la Méditerranée en moi, c'est-à-dire que moi je fais au feeling. En fonction de ce que je ressens, et pour le coup, Pauline est déjà maman de deux très beaux enfants, qui sont mes beaux-enfants.
Qui ont quel âge?
9 et 5. 9 et 6. Et donc, avait déjà vécu des étapes assez clés. En fait, on parle. Mm. On parle beaucoup, on se fait confiance. On est deux parents, quoi. Mm. On est deux mamans. Et à temps plein et pleine et entière dans l'exercice. Après, on s'est donné juste quelques règles. Jamais se dédire devant eux. Mmh. Voilà. Même si on n'est pas d'accord, ben on en discute après. En tout cas, pas devant les enfants. On parle au maximum des choses et puis on accepte d'essayer. Mmh. Et puis après, on se fait confiance mutuellement.
Et du coup, en tant que belle-maman, avec les deux autres enfants, comment ça se passe? Est-ce que, du coup, c'est fluide ou est-ce qu'on n'ose pas trop? Parce que souvent, quand on reçoit des familles recomposées, la question est sur l'autorité. Est-ce qu'on se sent légitime à poser le cadre, à reprendre?
Sincèrement, c'est pas. Il y a des moments et des époques. Moi, ils sont rentrés dans ma vie, ces deux petits loups, ils avaient 1 an et 3 ans, c'était des bébés. Et moi, je viens d'une famille recomposée. Mm. Donc, j'aime mon beau-père comme mon père. Donc, je sais que cet amour n'est pas une histoire de sang, n'est pas une histoire de gêne. C'est l'amour. En fait, c'est la place du parent. En fait, le parent, c'est celui qui t'aime, qui t'élève, qui, pose le cadre, pose l'autorité. Parce que c'est une preuve d'amour aussi. Élever un enfant, c'est poser un tuteur, poser un cadre. Sinon, c'est une herbe folle. Mmh. Et donc, pour finalement l'accompagner dans toutes ces étapes, c'est être pleinement là. C'est pas être un passager de la famille. Donc, moi, ayant grandi dans une famille recomposée, on en a beaucoup parlé, bien sûr, avec ma compagne, mais notre plus grand enjeu était de construire une famille, pas deux familles qui se pluguent de temps en temps.
C'est ça.
Et aujourd'hui, la fratrie, elle a pleinement son identité.
Parce qu'ils vont grandir ensemble.
Bien sûr, ils portent un nom en commun. Ils se sentent frères et sœurs et on le voit. Mm. Et c'est ça, en tout cas, à mes yeux, c'est ça la réussite. Moi, je n'avais pas envie que ce soit 2 et 1.
Oui, c'est ça. C'est 3. Ça, c'est très important.
Mais parce que demain, ça va être leur lien qui va faire que, cette place de chacun, elle avait vocation à se bâtir dès le plus jeune âge. Donc, on est juste. Les règles sont les mêmes pour les uns et pour les autres. Alors évidemment, en fonction des âges, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Et puis moi, ça s'est fait étape par étape. Parce que quand tu as un bébé d'un an qui arrive dans ta vie et un petit de 3 ans, c'est encore tout petit. Et après, ce qui est le plus simple, c'est qu'ils n'avaient pas de souvenirs d'avant.
Bah oui, c'est ça.
Ils ont connu que ça, que nous.
Donc c'est plus c'est vrai que c'est un peu plus simple que d'arriver dans l'adolescence.
Ça peut être plus dur.
Peut être un peu plus dur. Vous êtes engagée du coup en tant que haute commissaire à l'enfance et j'aimerais faire le parallèle entre les choses que vous défendez, les combats que vous menez, la lutte aussi pour protéger les enfants de la société. Comment vous faites pour entendre, vous engager, prendre position sur des thématiques lourdes et ne pas, en tout cas, transposer à la maison? Parce que j'imagine que, on parle aussi d'inceste. Ouais, mais c'est ça. Moi, je suis éducatrice spécialisée et des fois, je me dis, elles ont besoin de faire leurs erreurs. Mais inévitablement, quand on entend tout ce qui se passe, quand on entend toutes ces violences faites aux enfants, quand on combat au quotidien, ça a forcément un impact sur, en tant que parent, quand on rentre à la maison, est-ce qu'il y a des peurs? Comment on anticipe?
Non, les peurs, bien sûr qu'il y en a. Et sincèrement, c'est compliqué de dire, je mets mon cerveau en mode pause parce que, en fait, tu sais, tu travailles au quotidien avec. Par contre, c'est le fait d'être maman, moi, a changé mon regard sur les politiques publiques. C'est que pour moi, avant, le soutien à la parentalité, c'était des matières froides. C'était les politiques publiques qu'il fallait qu'on porte. Aujourd'hui, on ne peut pas laisser un parent seul. Il y a trop de transitions, c'est trop bousculé. Aujourd'hui, on a une responsabilité, bien sûr, en tant que parents, d'élever nos enfants de manière individuelle. Mais il y a une responsabilité collective. Énorme. Non. Parce que notre société, elle est brassée, elle est bousculée par des transitions. Quand on parle du numérique, quand on parle du travail aujourd'hui qui a changé, les deux dans un couple travail, ou même quand on parle des familles monoparentales, 82% des familles monoparentales, ce sont des femmes avec des enfants de moins de 6 ans. Mm. Quand d'un coup, on commence à parler du complément mode de garde, c'est plus un sujet froid, en fait. Une réalité de la vie quotidienne. C'est pas une ligne de programme, c'est pas une ligne de la politique familiale, c'est une réalité qui est transformatrice et qui du coup a de la chair, a de l'impact. Et donc c'est plus simplement une somme de dispositifs, que ce soit sur la place aujourd'hui, la place du, des beaux-parents. Mmh. 10% des familles sont aujourd'hui recomposées. Bien sûr, 25% de familles monoparentales. Et typiquement, genre, tous les ans, on a à peu près 250 000 couples qui se séparent. La moitié d'entre eux ont des enfants. Mmh. Donc comment tu fais pour que, quand tu es parent, même quand tu te sépares, ton rôle de parent reste au même niveau à la hauteur. Mmh. C'est pas parce que le couple se sépare que finalement... Parents... Ben bien sûr que non. Et comment tu brises les tabous? Les tabous de la violence, les tabous de la pédocriminalité, mmh. les tabous, pour le coup, malheureusement aussi, des carences éducatives qu'on peut connaître. Et peut-être que le fait de vivre moi-même, aujourd'hui, en fait, ma maternité et a fait que j'ai peut-être, un peu plus de... Je crois que j'ai plus de tendresse face aux difficultés qu'on peut avoir. Genre, les problèmes de solution de garde, c'est pas juste un problème.
C'est un gros problème.
Ne pas avoir de place en crèche. Mais bien sûr. Et c'est pas juste une ligne. C'est pas il nous manque tant de place. C'est en fait autant de familles, autant de femmes, autant de couples. La question de comment on élève nos fils et nos filles pour que demain l'égalité ne soit plus en réalité un enjeu de combat, eh ben, c'est maintenant que ça se passe. C'est pas demain. Et là où j'ai peut-être bougé aussi, c'est que moi, j'ai cherché beaucoup. J'ai cherché de l'information, j'ai cherché des repères. Et c'est comme ça que sont nées, par exemple, les clés de l'enfance. Mmh. Les clés de l'enfance, c'est des guides à l'attention des parents qui sont plutôt grand public avec des tranches d'âge. 0, 3, 3, 6. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est submergé. On a une charge mentale qui est énorme.
Énorme.
Énorme. Y a beaucoup d'infos. Parfois, elles sont contradictoires. Il y a des choses qui sont... Franchement, parfois...
Paradoxal.
Exactement, profondément paradoxal. Et donc, pas toujours de très bons conseils. Quand on est épuisé, et on voit la santé psychique aujourd'hui des parents, 1 sur 5 dit être...
Épuisé.
Épuisé, on parle d'épuisement parental, mais même on peut aller plus loin. Bah, face à ça, on a la responsabilité de donner des clés, d'où les clés de l'enfance. Mmh. Donc, des informations claires, des ressources, où on peut aller trouver ailleurs. Et puis, ne pas laisser cette solitude et cet isolement s'installer. Et... Parce que dans notre, mine de rien, dans notre société très instagrammable, mais en fait, il faut être parent parfait, bien habillé le matin, qui arrive à tout faire. Ben, en fait, non, c'est pas vrai. C'est, on a le droit d'être fatigué, c'est légitime. On a aussi la responsabilité de reconstruire des cercles de sociabilité, de sécurité, des cercles familiaux, parce qu'aujourd'hui, la vie est, je crois, à mes yeux, de parents, plus exigeante. Mmh. Parce que les dangers sont plus nombreux, parce que le travail prend plus de place, parce que la famille... du fait de la métropolisation des emplois est plus loin aussi. Et ça, on l'a peut-être un peu moins sous-estimé. Mais tu peux pas toquer à la porte et dire, aujourd'hui, j'ai travaillé, mon enfant est malade, ou il y a un problème à l'école, ou... Ben, en fait, ces solidarités du quotidien étant peut-être parfois moins présentes aujourd'hui, notre responsabilité collective, c'est de bâtir des clés, des solutions, des repères. Et donc, il faut réussir à dire aux parents, face au numérique, face à un monde qui va plus vite, à un monde qui, parfois est aussi plus brutal si on regarde la situation internationale, c'est pas anodin, en fait, on a le droit de demander de l'aide. Et quelle que soit sa situation sociale, quel que soit son territoire. Le soutien à la parentalité, il est universel. Universel. Aujourd'hui, moi, j'ai 90% des parents qui demandent de l'aide sur le monde du numérique. Mais sauf que ça, c'est juste le haut de l'iceberg. La réalité, c'est qu'on a tous, galéré pour le sommeil. On se pose tous des questions sur l'alimentation. On se pose tous la question de la préadolescence. On a tous peur du harcèlement et du cyberharcèlement à l'école. Et donc, face à ça, comment on donne des outils aux parents pour qu'ils puissent savoir juste à qui s'adresser au moment où ils en ont besoin. Et bien finalement, c'est là où le soutien à la parentalité est plus que jamais, à mes yeux, aujourd'hui, une des pierres angulaires du soutien plus largement aux enfants et de la protection des enfants. Et ça commence par l'accompagnement des parents.
Je suis tout à fait d'accord et c'est pour ça justement que ce podcast pour moi en fait il fait sens et il est vraiment important. C'est parce que effectivement c'est une question universelle et des fois tout à l'heure on parlait de la honte sur l'orientation sexuelle, mais il y a la honte dans la parentalité et dans le fait de pas réussir ou d'avoir ce sentiment d'être débordé. Et ça c'est un tabou encore.
Faut juste être soi.
Bien opaque et c'est vrai que on a besoin d'entendre que c'est normal, que ça fait partie de l'aventure. Et on a besoin aussi d'outils, mais d'outils qui soient peut-être adaptés dans le sens où on a de plus en plus de familles qui sont à mi-chemin entre des traditions, des cultures différentes, qui arrivent, qui sont installées en France depuis des années, mais qui ont une autre un autre modèle d'éducation. Puis en plus, aujourd'hui, la parentalité, elle est légiférée, hein, parce que il fut un temps où l'éducation ne se faisait pas du tout de la même façon, que ça soit en France ou ailleurs dans le monde. Et donc, on a des enfants, nouvelle génération, qui veulent se défaire de la façon dont ils ont été éduqués, mais faire autrement, mais qui n'ont pas justement l'outil intermédiaire. Donc du coup, c'est vrai que c'est intéressant de se poser ce genre de questions. La question qui me vient maintenant, c'est du coup par rapport à l'engagement aux familles que vous rencontrez jour après jour, quel est le message peut-être, en tant que jeune maman, que vous voulez faire passer à d'autres femmes qui, aussi engagées, travaillant énormément, doivent trouver un juste milieu ou un équilibre. C'est quoi votre recette à vous ? Parce qu'il n'y a pas de recette universelle, ce qui fonctionne chez vous ne fonctionnera pas chez moi, mais quelle est votre recette à vous ?
Prendre du temps pour soi. Parce que sinon, on va bien,
on peut prendre soin
des enfants. Et c'est pas et sans culpabilité.
Et comment on arrive à faire ça quand on est à un poste à responsabilité ou avec la vie de jeune maman, les nuits sont courtes. Comment on arrive à prendre du temps pour soi ?
Allô mamie.
Oui, mais oui.
J'avoue, c'est allô mamie pour moi. Mais surtout, j'ai envie de dire au papa, aux parents, quel que soit en réalité, et pas que aux mamans. On est deux quand on a la chance d'être deux. Et quand on est seul. Parce que finalement, il y a séparation. Il ne faut pas hésiter à partager. Ce n'est pas parce qu'on demande de l'aide qu'on n'est pas un bon parent. Ce n'est pas parce qu'on a besoin de prendre du temps pour soi qu'on délaisse son enfant. Je sais que ce n'est pas toujours ce qu'on nous renvoie en miroir, mais quelques heures, une après-midi, un week-end, ces temps-là sont précieux. Si nous, on va bien, si les parents vont bien, alors ils sont pleinement là pour leurs enfants. Et donc, accompagner les parents, leur permettre et leur dire que prendre soin d'eux, c'est important, c'est peut-être le plus beau des messages à faire comme preuve d'amour à ses enfants. Et je dis plus parce que je peux me permettre, parce que moi, je viens d'une famille qui a divorcé. Quand le couple se sépare, les deux restent parents. Et donc, à ces quelques papas qu'on voit moins, c'est votre chair, c'est votre sang, c'est votre amour.
Et c'est de votre responsabilité aussi.
Exactement. Et aux beaux parents, prenez pleinement votre place. Parce qu'un parent, c'est pas que la chair et le sang. Et donc finalement, une famille de cœur, parfois c'est un grand-tonton, parfois c'est une tata, parfois c'est un grand-père, parfois c'est une grand-mère, parfois... Mais la famille, c'est la somme de tous ces adultes qui sont autour. Et puis, aux parents, ne considérez pas que vous êtes tout seul, parce que vos meilleurs alliés, vos meilleurs... partenaire d'une certaine manière dans ce chemin. Moi, je le vis pas encore pour dans ma propre famille, je le vis pour mes beaux enfants, mais ce sont les enseignants, ce sont les éducateurs, ce sont les animateurs qui voient nos enfants toute la journée. Et donc finalement, ouvrons cette porte, osons au-delà de la question très scolaire, des compétences, de l'acquisition, des savoirs. Allons un peu plus loin. Et si on permet à l'enseignant d'être dans cette position de regard complémentaire, si on prend le temps d'échanger avec cet éducateur ou cet animateur du centre, alors oui, il y a des clés. Alors partager ses doutes parfois, c'est pas reconnaître des faiblesses. Partager ses doutes, c'est construire ensemble d'une certaine manière, et bien peut-être des chemins un peu plus balisés, en tout cas certainement moins seuls.
Merci pour ça, parce que y a une réelle question. On parle beaucoup des pères qui abandonnent ou qui prennent pas leurs responsabilités, en tout cas pas à la hauteur pour certains de ce qu'ils devraient. Mais on parle très peu de ces papas qui eux endossent aussi la responsabilité de la parentalité avec une mère qui fuit et qui est complètement absente des radars après la séparation.
Il y en a aussi. Alors il y en a moins, mais il y en a aussi.
Il y en a beaucoup moins, mais du coup, mais c'est vrai que des deux côtés, il y a une partie de ses parents qui sont un peu invisibilisés et qui du coup échappent au radar et aux...
Mais pour l'anecdote, comme je vous dis, j'ai une grand-mère très très forte, très féministe. J'ai deux de mes oncles qui ont fait le choix d'être des papas à la maison pendant les jeunes âges de leurs enfants. Donc j'ai eu la chance d'avoir dans ma vie en tout cas des référents masculins, des hommes très précieux, très très papa, très engagé. Et donc, ces deux modèles. Et puis, mon frère est un papa absolument poule fini. Mais c'est très bien. Enfin, c'est très bien, c'est très mignon. Et c'est vrai qu'on en parle moins quand ça fonctionne, ouais. Parce qu'on aimerait que ce soit la norme. Mais ça ne l'est pas.
Mais ça ne l'est pas. Moi, je sais que pareil, j'ai trois filles hein, qui ont de 14 à 18 ans. Et pour ma deuxième, en fait, c'est le papa qui prend le congé maternité.
Bah, c'est génial.
Qui garde mes filles. Et beaucoup disent ah bon bah, oui, parce que moi, j'étais en pleine lancée dans ma carrière. J'étais encore j'ai repris les études et c'est le papa qui était papa
poule. Mais génial.
Du coup, c'est vrai que c'est des petits clins d'œil aussi.
Mais comme quoi, on est deux.
Ouais. Ouais, ouais.
On est deux.
Et encore, nous, on est deux. Mais force aussi, et vraiment, je pense qu'on parlait tout à l'heure de responsabilité collective, c'est aussi la responsabilité citoyenne, bah, justement, pour venir en soutien à ces familles monoparentales. Parce que plus il y a de cercles de parents, plus il y a des solutions de garde et de répit pour les familles, pour les parents qui n'ont pas de famille autour d'elles, qui n'ont pas de socle d'amis, parce que garder ses amis, c'est aussi se rendre disponible pour eux, ça s'entretient.
D'où l'isolement social.
Donc, merci pour ça.
J'ouvre une dernière porte, parce que
ouais,
du coup,
allez,
c'est une invitation à... Mais c'est aussi toute la place de l'entreprise et ouais. des employeurs. Mmh. La manière dont on s'autorise ou pas à parler de la parentalité au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'équilibre vie pro-vie perso. La réalité, c'est vie pro-vie perso et vie familiale, quelle que soit la forme de la famille et ses pluralités. Et quand on aura voilà, un peu ouvert ce champ, on pourra parler de sa situation de famille monoparentale plus. On pourra parler de sa situation de famille recomposée. Et donc, quand il y aura la fête de Noël ou la fête de l'entreprise, eh bien, on pourra venir avec ses beaux-enfants parce que oui, ils font pleinement partie de nos familles. Et c'est aussi ça, l'évolution du monde de l'entreprise et des employeurs, qu'ils soient publics ou privés d'ailleurs. Mais c'est ces regards qui doivent évoluer. Et donc, les familles, oui, elles sont profondément plurielles. Elles sont pleines de beauté, de diversité, mais il faut les regarder comme elles sont. Et rien que comme elles sont.
Oui, merci pour ce message, parce que c'est important aussi que les gens puissent l'entendre et savoir que bah, même chez les personnes qui sont décisionnaires dans les plus hautes sphères de l'État, et ben, justement, je pense que c'est rassurant d'entendre. Et c'est pour ça que je vous remercie encore hein, pour ce témoignage, parce que souvent on a l'impression, on le dit, et je ne m'en cache pas, je le dis des fois, on a l'impression d'être dirigé parfois par des gens qui sont hors sol. Et quand on rencontre des ministres, des hauts fonctionnaires qui sont au plus proche des citoyens, bah, ça se ressent. Ça se ressent dans les actions, ça se ressent dans les choses qui sont mises en place. Et vous faites partie aussi des personnes qui, pour moi, en tout cas, c'était important. Quand je vous interpelle pour faire ce podcast, j'y crois qu'à demi, mais je me dis si, c'est
moi
important.
Moi aussi, j'ai dit oui.
Mais c'était important parce que de donner aussi de la parole à des femmes engagées, mais à des femmes qui nous inspirent par leur parcours, par leur courage, je pense que c'est important pour que chacune d'entre nous, en fait, on se dise, ben, en fait, on peut le faire. Et puis, on est représenté aussi par des personnes qui croient réellement. Et c'est pas juste un discours politicien, c'est un discours incarné. Non, mais merci. Mais c'est vraiment sincère. Et plus, tout au long de cet échange, vraiment, ça confirme. J'espère que chez vous aussi, les auditeurs, ça vous donnera en tout cas envie d'aller plus loin et d'aller un petit peu suivre ce que vous faites, madame Hélène. Parce que vous êtes très active et très concernée. Un petit mot pour les enfants quand même, parce que souvent on a des enfants qui écoutent ce podcast. Qu'est-ce qui vous émerveille? Alors aujourd'hui, vous en faites votre engagement du quotidien. Qu'est-ce qui vous en émerveille?
En fait, on se laisse émerveiller quand on est un petit peu moins fatigué, qu'on les regarde. Et moi, c'est les mots, c'est les nouveaux mots. Le plaisir, bon alors c'est vrai qu'on parle de soi, mais moi, ma fille maintenant dit maman d'amour. Alors là, elle peut demander ce qu'elle veut, quoi. Et je m'étonne à aimer ces moments d'histoire le soir pour s'endormir. Je m'étonne à aimer des rituels, alors que je suis quelqu'un qui est plutôt, c'est vrai, très très à 200 à l'heure. Mais là, j'aime ces moments où on ralentit et je dis aux enfants, profitez-en. Partagez-les, invitez à ces moments-là et faites des surprises à vos parents.
Plein de surprises et
plein d'amour et plein de bisous et ça compte énormément. Et on vous aime même quand vous faites des petites bêtises, c'est vrai quand même.
Et ben vous m'avez spoilé à croire que vous avez lu ma liste. J'allais vous dire, si vous deviez laisser un seul conseil de vie à un enfant qui nous écoute pour qu'il grandisse libre, ça serait quoi?
On t'aime.
on t'aime et aime-toi.
Il y a toujours quelqu'un qui t'aime.
Il y a toujours quelqu'un qui t'aime. Et c'est vrai, vous êtes précieux, les enfants, comptez. Et même quand ça va pas trop bien à l'école, et même quand on est victime de harcèlement, essayez de vous souvenir qu'il y a des gens pour qui vous comptez, vous êtes précieux.
Et de manière, parce que si quand même parfois il se passe des choses un peu dramatiques, si vous pensez, si vous voyez quelque chose, si vous doutez, il y a des gens qui peuvent décrocher, il faut en parler. Il y a un numéro en tout cas qui s'appelle le 119. Parlez-en adulte, mais à minima, il y a ce numéro, sachez-le. Il est fait pour accueillir la parole, votre parole. N'hésitez pas.
Et on s'adresse aussi aux enfants qui peuvent nous entendre et qui subissent des choses à l'intérieur de la maison. Vous êtes sur ces questions justement de protection des enfants. L'inceste, c'est un sujet encore trop tabou. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à comment prémunir votre propre enfant de justement ce qui se passe à l'intérieur ? Parce que souvent, on leur dit attention aux inconnus, attention à l'extérieur, mais on n'a pas assez de messages en leur demandant de faire attention à ce qui se passe à l'intérieur.
70% des violences sont faites à l'intérieur. 70% des violences sexuelles sont intrafamiliales. En réalité, aux enfants, c'est ton corps t'appartient, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret à avoir. Et même quand quelqu'un que tu aimes te dit que c'est un secret, alors il n'y en a pas. Et il faut, quand on sent que c'est pas normal, que c'est pas ce qu'on souhaite, c'est pas ce qu'on veut, alors faut dire à quelqu'un qu'on aime, faut pas avoir peur, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et pour le coup, ne jamais, enfin, c'est pas de votre faute, donc ne gardez pas ça pour vous. Et je sais à quel point ça peut être difficile d'imaginer la parole qui se libère, mais un numéro, un adulte, le 119, au moindre doute, si vous voulez partager quelque chose que vous avez sur le cœur, il y aura toujours quelqu'un pour venir. Arrêtez ça, protégez, ne pas laisser des années et des années passer. C'est pas simple, c'est jamais simple à entendre, c'est jamais simple à dire, mais vous y êtes pour rien, alors faut dire stop.
Et un mot pour ces parents qui dénoncent, parce qu'il y a aussi un sujet. On a beaucoup de parents qui dénoncent et qui sont pris dans une machine où finalement ils regrettent presque d'avoir l'envie de protéger leur enfant parce qu'ils ont l'impression que le système se retourne contre eux, que finalement ils sont accusés pour de vengeance, de malveillance, etc. Et du coup, on a beaucoup de familles qui abandonnent le combat parce qu'elles ont finalement, elles ont l'impression que ça se retourne contre elles. Est-ce qu'il y a un petit mot d'encouragement ou
ne jamais regretter de briser le silence. Jamais. Parce que ça permettra de se construire, de se reconstruire, de permettre à ses enfants de grandir. Ce qui est certain, c'est qu'on a une société qui se judiciarise beaucoup. Et donc, parfois, on ne voit pas, on ne comprend pas, ça ne part pas comme ça devrait partir, en tout cas droit. Et je vous dis, ne lâchez rien. Ne lâchez rien parce que c'est pour eux. Et c'est bien nos essentiels.
Eh bien, merci, Madame El Haïry. Pour finir, j'aimerais que vous choisissiez, sur la table, j'ai posé des cartes d'émotion. Et j'aimerais que vous choisissiez une carte qui parle, en tout cas, qui symbolise l'émotion d'être parent.
La joie. La joie. Parce que chaque jour, même quand t'es épuisé de fatigue, tu as ce petit moment de magie. Et moi, j'aime m'endormir avec le moment d'étonnement dans ma tête. Mais je réfléchis à qu'est-ce qui m'a touchée, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce qui a fait que ça a été une journée où il y a eu un petit plus, quelque chose de nouveau, où elle a grandi. Et pour moi, c'est la joie.
C'est la joie. Bah, merci, Madame El Haïry. Merci pour cette sincérité, pour avoir déposé l'armure politique le temps d'une heure d'échange entre femmes, entre mères. Merci pour votre sincérité et à très bientôt.
À très bientôt. Merci beaucoup.
Vous pouvez nous retrouver sur Mon Paris FM et sur toutes les plateformes de téléchargement. À très vite. Ciao.